Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne. pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 21 mai 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique a envoyé deux lettres séparées au commandant de la résistance palestinienne, dans lesquelles il a réitéré le ferme soutien de l'Iran à la résistance palestinienne. Première déclaration du porte-parole des brigades Al-Rassam, branche militaire du Hamas, après l'annonce d'un cessez-le-feu. La résistance libanaise, le Hezbollah, a félicité le peuple et la résistance palestinienne pour leur victoire historique. Et la résistance yéménite a abattu un drone de Saoudien. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le commandant de la force de Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Qani, a adressé une lettre à Mohamed Al-Zaïf, commandant de brigade Qassam, branche militaire du Hamas, le félicitant pour son courage, sa bravoure et exprimant sa confiance en la victoire de la résistance palestinienne dans cette bataille. Dans sa lettre, le commandant de la force du corps des gardiens de la révolution islamique a souligné, en s'adressant au commandant des brigades de Qassam, au martyr vivant qui a passé sa vie dans les premiers rangs du djihad, confiant de la victoire, en mon nom et en nom du leadership de la République islamique, je m'adresse à un commandant courageux et toujours prêt à se sacrifier pour autrui. À tous les dirigeants et moujahidines de toutes les factions de la résistance, vous avez promis la victoire à Al-Quds et vous avez tenu votre promesse en faisant goûter à l'ennemi usurpateur le goût de la terreur, de la défaite et de l'humiliation, a-t-il souligné. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le porte-parole des brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, Abu Obaïda, a affirmé dans sa première déclaration après l'annonce d'un cessez-le-feu que nous avions préparé une frappe qui couvrait toute la Palestine, de Haïfa à Ramour. Mais nous avons répondu favorablement au cessez-le-feu pour surveiller le comportement de l'ennemi jusqu'à 2h du matin de vendredi. Nous avons suspendu cette frappe de missile que nous avions préparée pour l'ennemi. Abu Obaïda a ajouté dans un communiqué retransmis en direct par divers médias palestiniens et arabes, la résistance palestinienne a mené la bataille de l'épée d'Al-Quds pour défendre la voie de notre prophète, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et la première kibla des musulmans, une bataille qui n'est que le prélude à la disparition de l'entité sioniste. Nous avons mené cette bataille au nom de toute une nation qui assiste à l'humiliation d'Al-Quds par la crasse de l'humanité. Abu Obaïda a ajouté, la direction de l'occupation est confrontée à un véritable test et la frappe de missile est toujours sur la table jusqu'à 2h du matin, soulignant que nous avons pu, avec l'aide de Dieu, humilier l'ennemi et son armée, dont la direction se vantait d'avoir tué des enfants et détruit des tours résidentielles. Et de conclure, la résistance a combattu pour la défense d'Al-Quds avec honneur, volonté et fierté au nom de toute une nation. Le Hezbollah libanais a félicité le peuple palestinien. Le Hezbollah félicite le peuple palestinien héros et sa résistance vaillante pour leur grande victoire historique réalisée dans la bataille et baptisée l'épée d'Al-Quds face à l'ennemi sioniste. Il salue notamment les résistants et les moujahidines, les martyrs, les blessés ainsi que leurs familles nobles patiente. Il adresse ses félicitations également au commandement des factions de la résistance palestinienne qui ont été à la hauteur de cette bataille, qui ont apporté la victoire à la noble Al-Quds et à la mosquée d'Al-Aqsa et ont été fidèles à la confiance que le peuple palestinien et tous les libres et les opprimés du monde leur ont apporté soutien. La résistance a brisé lors de ce round héroïque les anciennes équations que l'ennemi a œuvré à consolider par le feu et les massacres. Cependant, la résistance a établi de nouvelles équations qui paveront la voie à une grande victoire, a souligné dans son communiqué le Hezbollah libanais. La résistance yéménite a battu un drone saoudien. La résistance yéménite a annoncé qu'elle avait réussi à abattre un drone espion au Sud dans l'espace aérien de Najran. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a noté que la défense aérienne yéménite avait abattu un avion de combat espion alors qu'il menait des actions hostiles sur le front de Najran. La Russie cassera les dents à celui qui tentera d'en croquer un morceau, a souligné Vladimir Poutine. Vladimir Poutine s'est dit certain que la Russie fera toujours face aux velléités de la contenir malgré toutes ses tentatives de satisfaire les demandes de ses détracteurs tout en promettant une riposte ferme à ceux qui tenteront donc de croquer un morceau. La Russie cassera les dents à celui qui tentera d'en croquer un morceau, a déclaré le président Poutine lors d'une réunion du comité d'organisation russe Victoire. Tout le monde veut nous mordre quelque part ou croquer un morceau de notre pays. Mais ceux qui entendent le faire doivent savoir que nous allons leur casser les dents pour qu'ils ne puissent pas mordre. C'est évident et le développement de nos forces armées le garantit, a-t-il martelé. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique a adressé deux lettres au commandant de la résistance palestinienne, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Rani, a adressé une lettre à Mohammad Al-Zaif, commandant des brigades Qassam, branche militaire du Hamas, le félicitant pour son courage, sa bravoure, et exprimant sa confiance en la victoire de la résistance palestinienne dans cette bataille. Et de poursuivre au martyr vivant qui a passé sa vie dans les premiers rangs du djihad, confiant de la victoire en mon nom et au nom des dirigeants de la République islamique, je m'adresse à un commandant courageux et toujours prêt à se sacrifier pour autrui, à tous les dirigeants et moudjahidines de toutes les factions de la résistance. Vous avez promis la victoire à Al-Quds et vous avez tenu votre promesse en faisant goûter à l'ennemi usurpateur le goût de la terreur, de la défaite et de l'humiliation. S'adressant au peuple palestinien, le général Ismail Rani a affirmé « La paix soit sur le peuple palestinien à Al-Quds, en Cisjordanie et dans toutes les villes occupées depuis 1948. La paix soit sur le peuple honorable de Gaza en de symbiose avec sa résistance et ferme dans sa détermination à faire face à la brutalité de l'ennemi. » Le peuple palestinien a prouvé au monde qu'il vibre depuis des décennies pour sa cause et qui n'a pas oublié son droit à la lutte contre l'occupation, contrairement aux illusions de certains. Et d'ajouter, nous suivons dans tous les détails la grande bataille de l'épée d'Al-Quds que vous menez avec toute la brigade de la résistance palestinienne. Votre résistance a écrit avec le sang et le feu une équation selon laquelle l'ennemi ne peut plus se comporter à Al-Quds comme s'il était le seul maître sans faire face à une réponse dissuasive. Rappelons les propos du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, le général Rouhani a affirmé que la ligne descendante de la disparition de l'ennemi avait commencé et ne s'arrêterait point. Par votre conscience avec les différentes factions de la résistance, vous avez écrit une grande épopée qui a révélé la faiblesse de l'ennemi. La bataille de l'épée d'Al-Quds a prouvé que ceux qui ont vendu la Palestine ne représentent qu'eux-mêmes et regretteront leur trahison. La bataille de l'épée d'Al-Quds a réanimé la nation dans le cœur bas pour ses lieux saints. Nous sommes fidèles au pacte sacré du commandant Soleimani que jamais nous ne laisserons la Palestine seule, quelle que soit l'ampleur des pressions et du siège. Car Al-Quds est la boussole de l'axe de la résistance et la kibla de son djihad, a-t-il rappelé dans sa lettre. Il a conclu sa lettre, l'ennemi sait que la Palestine aujourd'hui n'est pas seule. L'axe de résistance se tient à ses côtés, il s'élargit et se renforce. Jamais nous ne vivrons en paix de temps que l'entité usurpatrice n'aura pas disparu et que chaque parcelle de la terre palestinienne sera libérée. Dans une deuxième lettre adressée au commandant des brigades Quds, branche armée du djihad islamique, Akram al-Ajouri, le général Ismail Rani a félicité la fermeté, l'unité de rang, la direction avisée et le courage des brigades qui ont humilié, voire brisé l'arrogance de l'armée sioniste. Et d'insister, nous sommes avec vous, comme nous l'étions à l'époque du martyr d'Al-Quds, le commandant Chevras Soleimani, nous sommes avec vous corps et âme et avec tout ce que Dieu le Tout-Puissant nous a accordé comme force et de capacité.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des crimes commis par Israël contre la Palestine et particulièrement de la France. En effet, malgré l'interdiction des rassemblements en France, des dizaines de milliers de Français ont crié leur colère contre le crime commis par Israël contre la Palestine. Un bilan provisoire qui fait état de 140 morts, dont 40 enfants. Alors les forces de l'ordre en France n'ont pas pu faire grand-chose. Des jets de projectiles, des gendarmes blessés, des jets de gaz lacrymogène et beaucoup d'arrestations, donc qui a fait beaucoup de bruit, donc n'ont pas empêché des Français à crier leur haine contre les tensions qui règnent en Palestine occupée. Voilà, alors la situation est très grave et trop importante même pour que les Français se taisent. Voilà. Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et à toute l'équipe.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour également à M. Arnaud Develay, juriste international et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. M. Develay, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à l'équipe de Page TV, bonjour aux auditeurs et bonjour à M. Hugon.
Un plaisir d'être avec nous, et donc pour nous d'être avec vous, bien sûr. Et ma première question va s'adresser à M. Philippe Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, est-ce qu'on peut dire vraiment que la France, le gouvernement français est complice dans ce qui se passe en Palestine occupée, les crimes commis par Israël contre la Palestine? Car les Français, enfin le gouvernement français ne laisse pas les manifestants pour de crier leur colère et leur haine contre les crimes commis par Israël.
Oui, ben il est clair que la France collabore avec Israël sur les questions de sécurité nationale d'Israël. Depuis des dizaines d'années, il n'y a rien de très nouveau dans cette politique menée par la France. Quant à interdire des manifestations qui défendent les principes même de l'existence des territoires palestiniens, moi je trouve ceci assez scandaleux. On autorise des tas de manifestations dans des tas de domaines différents. On sait très bien que dans ces manifestations, il y a quelquefois des éléments perturbateurs, mais pas une raison suffisante pour interdire une manifestation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une décision politique de vouloir interdire et de museler une fois de plus les Palestiniens. Mais ceci ne résout pas les problèmes. On a l'habitude en France de faire l'autruche et de se cacher et de se voiler la face, de se cacher les yeux devant une situation qui n'est plus contrôlable aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire que la France revoie sa politique étrangère et soutienne au contraire un processus de paix envers Israël et les Palestiniens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis 60 ans maintenant, eh bien aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un centimètre sur ce dossier, et Israël ne désire absolument pas trouver un processus qui permettrait d'apporter la paix dans la région.
Tout à fait. Merci. Monsieur Develay, alors ma question va s'adresser à vous. Alors, le fait que d'interdire les rassemblements en France, bien sûr, il y a cette crise sanitaire et les lois sanitaires qui empêchent toute manifestation en France. Mais on a une façon très particulière de réagir face à ces manifestants qui manifestent contre Israël. Qu'en pensez-vous ?
Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand vous dites que les manifestations sont interdites à cause de la crise sanitaire, il y a eu des manifestations autorisées durant la crise sanitaire. Sauf que ce sont des manifestations où, en termes de narratif, la procède d'une forme d'ingénierie sociale dont profite le gouvernement. Donc c'est tout à fait quelque chose à souligner. Maintenant, en ce qui concerne l'interdiction prononcée par le ministère de l'Intérieur concernant les manifestations pro-palestiniennes, il faut garder à l'esprit que tout ça a ses origines suite à ces manifestations avaient été extrêmement soutenues et avaient embarrassé le gouvernement français de l'époque. Et on sait que la ministre de la Justice de l'époque, Madame Ali Lebari, avait emboîté le pas aux associations sionistes en France dans leur tentative d'égaliser, enfin de mettre une équivalence sémantique et juridique entre l'antisionisme et l'islam. Donc, de facto, cela a permis au pouvoir politique en France, sous l'influence de ces lobbies, de pouvoir trouver un tour de passe-passe en mettant à équivalence entre les manifestations à venir, donc celle de 2014, lorsque l'État sioniste avait attaqué la bande de Gaza, ou à l'époque, sous le prétexte avait attaqué à Sarcelles une manifestation pro-palestinienne. On voit aujourd'hui que cette précédente que Darmanin a utilisé pour prévenir en amont toute manifestation pro-palestinienne sur le pays. Mais ce que cela révèle, c'est que la France n'est pas neutre. La France, de par sa classe politique tout bon confondu, collabore effectivement activement avec les nationalistes, que ce soit pour des questions géopolitiques, que ce soit pour des questions presque idéologiques, et que ce soit pour des questions de vente d'armes. N'oublions pas que l'un des plus gros exportateurs de vente d'armes en France, la famille Dassault, a fourni les nationalistes en chasseurs depuis des décennies, et d'autres systèmes de défense militaire de manière générale. Donc il y a des gros enjeux sur plusieurs axes qui fait que la France aujourd'hui, en Occident, est probablement le pays le plus sionisé après les États-Unis.
Oui. Monsieur Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec la prise de position de Monsieur Develet quand il parle d'une France qui est plus proche d'Israël que les autres pays de l'Union européenne?
Ah ben oui, là, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, la France est très très proche d'Israël. Elle l'a toujours été, si vous regardez bien, puisqu'on s'est toujours rangé derrière les positions états-uniennes. Moi, je garde quand même une lueur d'espoir pour les années qui viennent, puisque je pense qu'il sera de plus en plus difficile pour Israël de cacher ses crimes et pour l'Union européenne, les États-Unis, la France, de pouvoir défendre des positions qui deviennent indéfendables. Alors on parle de régulièrement de personnes tuées dans la bande de Gaza. Il est vrai que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Donc comment la communauté internationale peut tolérer une chose pareille? Alors évidemment, Israël fait toujours jouer cette culpabilité dont elle joue d'ailleurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est quelque chose, cette culpabilité qui va disparaître puisqu'elle est surtout générationnelle, puisque plus on avance dans le temps et moins les Israéliens pourront utiliser comme excuse ce problème de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils perdent maintenant toute crédibilité sur la scène internationale et il faudra bien qu'Israël change sa position en politique étrangère, puisque si elle ne le fait pas, Israël n'existera plus dans 20 ans, tout comme n'existera plus dans 20 ans les États-Unis sous la forme que l'on connaît actuellement. On voit déjà des États comme la Californie et le Texas qui demandent leur indépendance, puisqu'il y a aux États-Unis une grande diversité culturelle, et c'est un pays qui devra se fractionner, certainement sous une sorte de confédération, mais qui se fractionnera en plusieurs entités. Et c'est quelque chose qui, avec les difficultés économiques, font qu'ils ne pourront plus soutenir Israël comme ils le font. Et la France, qui est un pays en faillite financière, ne pourra plus continuer encore très longtemps à soutenir Israël comme on le fait actuellement. Il faut savoir qu'en France, on a des avions de chasse dont la moitié ne sont plus en état de vol parce qu'on n'a pas de quoi acheter des pièces détachées d'avions, ce qui est une situation totalement ubuesque de voir une chose comme ça pour un pays qui se prétend être une grande puissance mondiale. Donc tout ceci fait beaucoup rigoler aujourd'hui et on va assister dans les 10 ans qui viennent à des bouleversements que l'on n'imagine même pas aujourd'hui sur la scène internationale. Et si Israël, je dis bien, ne change pas sa position, Israël est condamné à disparaître.
Oui. Arnaud Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon quand il parle de la France qui ne devrait pas écouter, comme avant, Israël? Alors, qui dit écouter Israël dit écouter les États-Unis. Donc, Macron va continuer d'accepter aveuglément ce que Israël et les États-Unis lui dictent?
Écoutez, ce n'est pas tant une question de personne, c'est une question de réseau en France. La France fonctionne au travers des réseaux qui la contrôlent. Et le réseau sioniste, parmi ces réseaux, est un réseau très puissant en France. M. Hugon le soulignait, à l'exception de la parenthèse gaulliste, la pénétration a été systématique et omniprésente dans les institutions. Vous ajoutez à cela la propension de certains politiques français à vendre les intérêts bien compris du pays pour promouvoir leur carrière, et vous avez un cocktail désastreux. Là où je partage le constat de M. Hugon sur l'évolution en Occident des sociétés de manière générale, que ce soit au niveau démographique, au niveau culturel, je ne partage pas son optimisme dans le sens où je pense que nous sommes en présence d'une reprise en main qui verra quelque part un narratif imposé en Occident, peut-être sous couvert bien sûr de la crise sanitaire, où certains réseaux pour pouvoir maintenir leur contrôle essaieront de transférer, si je puis dire, la réalité sur le terrain tel qu'elle existe à Gaza en Occident justement. C'est ce que je vois moi. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, le polémiste français, ne s'en est pas privé de l'expliquer. Il a écrit même un livre en 2016 qui s'appelait Les suicides français, dans lequel il fait référence à ce qu'il appelle, lui, je cite, des enclaves islamisées, où il laisse entendre que, avec l'aide des conseillers militaires israéliens, l'armée française a mis au point un plan qui répond au nom de code RONS. Donc le protocole est en place. Tout ce qu'il leur faut maintenant, c'est de faire monter la sauce et utiliser la stratégie de la tension. Et à l'aune peut-être des élections, ce qui allait juger utile par les vrais tenants du pouvoir en France, le soir de l'élection de Marine Le Pen, on pourrait avoir une explosion sécuritaire, sociale, à travers tout le pays, qui ensuite justifierait l'intervention de l'armée, se faisant la fin des libertés civiles en France, mais toujours sous contrôle sioniste. Parce qu'en fait, on passe d'une période dite du social-sionisme à une période qui sera dénommée le national-sionisme. Mais à la fin, en fait, ça reste une opération sous contrôle sioniste. La France, bien compris, les intérêts français bien compris, n'existe plus en tant que tel.
Très juste. Monsieur Hugon, votre réaction, je vous prie.
Oui, ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, malheureusement. Je pense que c'est tout à fait juste. Moi, je garde toujours, comme je vous le disais, cette lueur d'espoir. Et c'est un élément que néglige totalement Israël. C'est l'évolution de la société palestinienne. Donc, s'ils avaient affaire, il y a quelques dizaines d'années, à des éleveurs, à des gens qui n'avaient pas fait d'études et sur lesquels ils avaient une mainmise assez facile, ce ne sera plus le cas dans les prochaines années, puisqu'on a maintenant des Palestiniens qui sont des universitaires, qui sont des scientifiques, qui sont... Et moi, ce que je crains le plus maintenant, ça va être la radicalisation d'une nouvelle génération de Palestiniens, et qui pourront peut-être utiliser contre Israël des armes beaucoup plus dangereuses que ce qui est utilisé aujourd'hui. Et Israël, quelque part, aura cherché des ennuis dans le sens où ils n'auront pas essayé de développer un processus diplomatique et un processus de paix qui permettra de faire avancer la situation. Et comme je vous le disais, j'ai cette lueur d'espoir dans le sens où je souhaite que la classe politique israélienne change, bien que j'ai malheureusement beaucoup de résistance à le croire, mais je le souhaite malgré tout, de façon à ce qu'on trouve une solution durable dans la région.
Oui. C'est très peu probable que Israël trouve une solution pacifique dans ces tensions. Monsieur Develay, pour quand même terminer, On a l'impression que le gouvernement français ignore totalement, par exemple, ces 140 morts, dont 40 enfants, et ignore les cris donc, des manifestants contre ces crimes commis par Israël.
Alors d'abord, permettez-moi de rectifier, on n'est pas à 140 morts, on a dépassé le cap des 200 morts maintenant, oui. Déjà, en une semaine d'offensive. Et pour répondre à votre question, non, le gouvernement français est parfaitement au courant dans les détails les plus spécifiques de la situation sur le terrain. C'est juste que, comme je le disais auparavant, c'est une classe politique qui, soit pour des raisons d'avancement personnel, doit exercer ou respecter une certaine ligne, c'est une ligne pro-sioniste en France, en tout cas.
Quelle raison personnelle vous citez, enfin vous parlez, Monsieur Develay?
Pour moi, il y en a deux, il y en a trois. Ça peut être des raisons purement idéologiques où ils sont en accord complet avec le projet sioniste dans la région. Deux, ça peut être des chantages, parce qu'on sait maintenant par les réseaux extrêmes que le Mossad a intrusé toutes les classes politiques occidentales depuis des décennies à ramasser des dossiers sur tous ces gens-là et s'est servi des plus vulnérables pour les élire, à financer leurs campagnes, les mettre en place afin qu'ensuite les politiques menées soient celles qui correspondent à l'agenda sioniste. C'est le deuxième. Et le troisième, probablement des dossiers qui portent sur des opérations qui auraient pu être faites plutôt dans la carrière politique de ces gens. Je pense notamment à Elbaz, qui avait pris une position plutôt pro-palestinienne en 2002 lorsqu'il était maire à Évry, et qui, dans les années qui ont suivi, a complètement viré bord. Voilà, pour des raisons donc personnelles, pour des raisons d'avancement personnel et d'ambition politique personnelle.
Oui. Monsieur Hugon, excusez, donc les intérêts de France sont si énormes d'être si proche d'Israël, donc d'aller jusqu'à ignorer totalement ce qui se passe en Palestine et les cris des manifestants en France même.
Ah ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle là aujourd'hui de 140 morts, dont 40 enfants. On ne verra jamais un politique en parler à la télévision. Je pense qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par le fait qu'il y a 140 morts. Il y a une indifférence envers la Palestine qui est effrayante. C'est bien d'ailleurs le problème qui va créer cette radicalisation au niveau de cette nouvelle génération et qui risque d'avoir une position extrêmement dure envers Israël et surtout de pouvoir fomenter là des attentats qui vont être extrêmement meurtriers puisqu'on n'utilisera plus des armes mais des virus. Et pour eux, ce sera une question de survie et une question d'honneur de venger un petit peu, même si ce n'est pas une très bonne chose, mais de venger également les morts palestiniens. Et ces morts palestiniens arrivent dans un contexte d'indifférence générale, que ce soit en France ou aux États-Unis. On ne parle jamais des dommages subis par les Palestiniens, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, au 21e siècle, qu'il y ait une telle indifférence.
Monsieur Develay, votre position, je vous prie.
Oui, ben écoutez, moi je pense que malheureusement, comme je le disais précédemment, on se dirige vers la suppression totale des libertés et de la fin de la démocratie et donc de la sionisation de l'Occident. C'est la course en avant, la fuite en avant de toute façon, qui a toujours prévalu quant à la façon dont l'État sioniste perçoit son environnement immédiat sécuritaire lorsque le narratif qu'il était imposé est tout d'un coup hors de contrôle. Donc il applique, si je puis dire, la fuite en avant. Et ce qui m'amène à conclure en disant que de toute façon, cette situation, cet état de fait, cette absence totale de liberté d'expression et surtout cette hypocrisie des classes politiques occidentales est presque à la limite qu'un épiphénomène. Le front principal, il est dans la région du Moyen-Orient et c'est la résistance, l'acte de la résistance qui va régler le problème d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre solution. Une fois que la tête du serpent aura été éliminée, la situation en Occident retrouvera une forme de normalité.
Mais M. Huguen a parlé tout à l'heure que plus on avance, Israël a moins d'influence sur l'Union européenne et des politiques donc, contre donc, de ce qu'ils pensent d'être juste. Mais vous, vous pensez que dans les années à venir, ça sera le contraire?
Alors oui, moi je pense qu'il y aura une prise de conscience. Elle est déjà présente en France. Hein. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties européennes ne sont plus des démocraties. La France n'est plus une démocratie, c'est une dictature financière. C'est-à-dire que Macron, ce n'est pas un président, c'est un homme de paille qui est manipulé par des financiers, mais lui, personnellement, il n'a aucune conviction politique. Il suffit de le regarder physiquement pour comprendre que vous avez un homme qui a le charisme d'une boîte de conserve. Donc on ne peut pas prendre cet homme pour un président. Ce n'est pas De Gaulle. Obligatoirement, nous aurons des politiques qui seront, depuis d'ailleurs plusieurs décennies maintenant, des politiques qui sont aux ordres des financiers. Donc aujourd'hui, ce sont les intérêts économiques qui dirigent le monde et qui dirigent bien sûr la politique de l'Occident. Alors comme je vous le disais, cette lueur d'espoir, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Mais je pense qu'elle va petit à petit se mettre en place. Il faut malheureusement beaucoup de temps pour faire évoluer les choses, mais les choses vont évoluer. Il est clair qu'aujourd'hui, même si Israël continue de massacrer des Palestiniens, ils ne peuvent plus le faire dans une totale impunité. Et ils le font encore aujourd'hui parce qu'ils bénéficient du soutien du monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne. Mais avec les difficultés que nous allons connaître en Europe et dans le monde occidental d'une manière générale, puisqu'on est très proche aujourd'hui d'un effondrement financier général, nous n'aurons plus les moyens de soutenir cette mauvaise politique au Proche-Orient. Et c'est bien là l'espoir de la Palestine et des Palestiniens qui veulent se jouer afin que les Palestiniens puissent avoir une partie de territoire et avoir un pays indépendant.
Oui. Monsieur Arnaud Develet, un dernier mot pour terminer. Comment les choses vont évoluer à votre avis?
Je pense qu'elles vont évoluer par rapport à, comme je le disais, la discipline et la patience et la persévérance et la synchronisation des forces de l'axe de la résistance. Avec, et je soulignerai, on a appris aujourd'hui d'ailleurs, hier, enfin il semblerait émerger en tout cas que les Américains ont livré des batteries de missiles patriotes donc aux sionistes les derniers jours, ce qui laisse entendre que le dôme de fer en lui-même, c'est un pacotille. Et une enquête est actuellement en cours par les puissances du Conseil de sécurité pour vérifier si c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, l'ambassadeur à l'ONU de la République populaire de Chine a déjà annoncé qu'elle prendrait acte de cet état de fait et agirait de manière proportionnée. Donc ça veut dire que la résistance, plus le temps passe, va pouvoir compter sur le soutien chinois. Et probablement le soutien russe aussi, pour des raisons évidentes par rapport à la présence dans la région, mais aussi parce qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir que l'ordre international et le droit international soient respectés une fois pour toutes, et que les droits des populations à vivre en paix, ne pas être massacrés, le soient aussi. Donc je pense qu'on se dirige vers une confrontation tôt ou tard, elle est inévitable et souhaitable quelque part.
Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Huguen, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Parole d'experts.
Dans un un entretien téléphonique avec son homologue koweïtien, le président de l'Assemblée islamique d'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, se référant aux crimes du régime sioniste contre les Palestiniens, a déclaré « Le silence de la communauté internationale, des organisations humanitaires et des Nations Unies est surprenant dans le contexte actuel des crimes les plus odieux du régime sioniste contre les Palestiniens. » Comment peut-on analyser le silence des pays occidentaux face aux crimes commis par l'entité sioniste? Écoutons à ce sujet l'analyse de Xavier Dupré, économiste et analyste belge.
Je crois que les Occidentaux sont pour l'instant totalement paralysés par le fait que la résistance palestinienne soit le fait du Hamas. Il y a un problème sur l'acteur. Alors je crois que là-dessus, les Occidentaux ont la mémoire un peu courte. Le Hamas est un groupe qui a son histoire, mais les problèmes des Palestiniens ne datent pas d'hier. La politique de colonisation n'a pas commencé la semaine passée. La politique de colonisation en Cisjordanie est un fait qui est là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Donc, on est là sur une donnée structurelle. De la même manière, Gaza est en révolte. Mais c'est un territoire qui est sous blocus de la part des Israéliens depuis 2007. Ça va faire 15 ans. Avec des conditions de vie, évidemment, pour la population de Gaza, qui sont tout à fait catastrophiques d'un point de vue humanitaire. Donc les Occidentaux semblent oublier, plutôt inverse cause et conséquence, et ne comprennent pas que leur silence alimente la colère des Palestiniens. En fait, si demain on en arrivait du côté des pays d'Europe occidentale, je ne parle pas encore des États-Unis, je pense que là ce serait très utopique pour le moment, mais à condamner la politique de colonisation, à dénoncer le blocus, les Européens seraient beaucoup plus audibles et leurs propositions politiques pour la région seraient beaucoup plus susceptibles d'être entendues par un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc dénoncer le Hamas sans dénoncer ce qui fonde la colère des Palestiniens et la stratégie de résistance du Hamas n'a aucun sens. Donc ça, c'est l'explication sur le silence des Européens et de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Nous sommes dans cette position de silence parce que nous nous focalisons sur l'acteur Hamas et pas sur les causes qui ont donné au Hamas une assise populaire. Et là, de ce point de vue-là, tant que nous resterons dans ce schéma-là, il n'y aura que du silence du côté des États-Unis et du côté de l'Europe. Et globalement, la colère de la population palestinienne ne diminuera pas, car il faut pouvoir envisager dans nos pays de dénoncer l'action d'Israël, l'action de colonisation en Cisjordanie, le blocus de Gaza. Tant que ceci ne sera pas fait, on peut estimer que les Occidentaux se disqualifieront pour pouvoir faire figure d'acteurs crédibles pour les Palestiniens.
En cas d'urgence, l'OTAN veut pouvoir déplacer 50 000 soldats vers l'Est en peu de temps. Les États-Unis, le Canada et la Norvège participent maintenant à l'expansion. Washington renonce à un rôle de leadership ici, mais a également d'autres intérêts. Les débats ont duré des mois entre l'Allemagne et la France. Berlin a pris le dessus. Il s'agissait de questions fondamentales qui ont ému et divisé les Européens pendant des années. Le quotidien allemand Die Welt, largement proche du gouvernement allemand et de l'OTAN, se demande dans quelle mesure l'Union européenne devrait-elle être indépendante pour défendre sa sécurité, sa stabilité et sa liberté. Dans quelle mesure l'Union européenne souhaite-t-elle s'appuyer sur l'OTAN et les Américains pour sa défense? Lors de la réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne, nous ferons des progrès décisifs dans la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. À partir de ce jeudi, les partenaires de l'OTAN, les États-Unis, le Canada et la Norvège seront également impliqués dans le projet clé de l'Union européenne sur la mobilité militaire, a déclaré la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer. En conséquence, les Américains participent désormais au projet de création d'une Union européenne de la défense. À l'avenir, Washington sera directement impliqué dans la politique de sécurité européenne. C'est une étape importante qui peut avoir des effets considérables sur le partenariat transatlantique. Selon la décision des ministres, Washington participera à un projet de plusieurs milliards de dollars visant à améliorer le transport transfrontalier de troupes et de matériel en Europe dans le cadre de l'initiative de défense de l'Union européenne « Coopération structurée permanente ». Cela semble très technique, mais c'est un projet central de la politique de sécurité européenne. L'objectif est de faciliter le transport de troupes et de matériel en Europe en investissant des milliards dans le pont, les routes et le trafic ferroviaire, ce qui comprend également la réduction de la bureaucratie intergouvernementale impliquée dans l'octroi des permis de transit. Notre infrastructure détermine à quel point les forces armées européennes peuvent être agiles, flexibles et capables. C'est une contribution décisive à la sécurité commune de tous les Européens, a déclaré Karrenbauer. L'automne dernier, l'Allemagne est parvenue sous la direction de Karrenbauer à un accord selon lequel les pays tierces devraient également pouvoir participer à PESCO à l'avenir. En quelques semaines, trois pays ont alors manifesté leur intérêt. Ils ont demandé leur adhésion fin février 2021. De hauts diplomates européens soulignent que ce processus est remarquable car les Américains se sont déclarés prêts à participer à un grand projet militaire dans lequel Washington ne joue pas le rôle de premier plan. Mais alors, que cache l'union voulue par l'Union européenne avec les États-Unis ? Pourquoi les Américains s'impliquent-ils ? Biden veut relancer le partenariat transatlantique, soit, mais les Américains ont aussi des intérêts financiers. Les marchés européens des équipements de défense d'$1 milliard doivent être redistribués à l'avenir selon la volonté de Bruxelles. Washington veut donc avoir un pied dans la porte dans les grandes instances de l'Union européenne et être informé en temps utile des projets lucratifs afin d'obtenir une part du gâteau. Mais il y a une autre raison pour laquelle les Américains en particulier sont si déterminés à construire des routes et des ponts en Europe sous la direction européenne, améliorer la dissuasion militaire et la défense contre l'agresseur aux portes de l'OTAN, à savoir la Russie. Ingénieuse comme méthode pour expliquer l'occupation militaire du continent.